Alors, un vent de révolte souffle dans les pays arabes. Ce vent est parti de Tunisie, quand Mohamed Bouazizi, ce jeune chômeur diplômé qui vendait des fruits et légumes à la sauvette, bousculé et molesté par la police, a crié son désespoir en s'immolant par le feu face à une société qui l'empêchait même de vendre des fruits. Cela a provoqué la colère de toute la population de Sidi Bouzid, et bientôt, la révolte s'est étendue face à un régime honni qui a tant emprisonné et torturé. La rage a pris le pas sur des décennies de peur et de résignation, et le vent de la révolte a soufflé à des degrés divers sur l'ensemble des peuples arabes, entraînant la chute de dictateurs qui semblaient indéboulonnables, comme Ben Ali en Tunisie et Moubarak en Égypte. Ces peuples partagent aujourd'hui le même sort, le même sentiment d'injustice face à des régimes corrompus, face au chômage, au manque d'avenir. Mohamed Bouazizi était tunisien, mais il aurait pu être égyptien, algérien, marocain ou jordanien. Oui, il y a un réveil des peuples arabes qui survient après des décennies d'humiliation, d'oppression coloniale, puis de régimes de dictateurs féroces soutenus par les pays impérialistes qui les ont maintenus dans le sous-développement. Les puissances occidentales ont aujourd'hui le cynisme de dénoncer ces régimes, alors même que nombre de responsables politiques français considèrent ces pays comme leur station de vacances d'hiver. C'est ainsi que Michel Alliot-Marie a passé ses vacances de Noël en Tunisie. François Fillon a fait le choix de l'Égypte et Claude Guéant, lui, a préféré la Libye. Selon le Monde diplomatique, entre 2005 et 2010, le Maroc a enregistré plus de 400 séjours privés de ministres français. Alors autant dire que tous les dictateurs qui règnent sur l'autre rive de la Méditerranée sont leurs amis. Ils appartiennent au même monde, leurs enfants fréquentent les mêmes écoles. Le fils de Kadhafi et le prince William, héritier de la couronne britannique, sont d'ailleurs, paraît-il, les meilleurs amis du monde. Un monde où les frontières nationales ont été créées pour dresser les peuples les uns contre les autres. Tout au long de leur histoire, les peuples arabes en ont fait l'amère expérience et à maintes reprises, au cours du siècle passé, les masses pauvres arabes eurent à se dresser à la fois contre ces divisions créées par les puissances impérialistes et contre l'oppression sociale et nationale qu'elles subissaient. L'actualité nous ramène à ce passé pas si lointain aux plaies encore douloureuses. À plusieurs reprises dans les années 1920, puis dans les années 1930, puis encore après la Seconde Guerre mondiale, les classes exploitées des pays arabes, en butte à l'oppression coloniale et sociale, se sont révoltées. Et à chaque fois, les révoltes se sont inter-influencées d'un pays à l'autre. Et c'est cette histoire que nous allons retracer ce soir, à partir de la fin de l'Empire ottoman, à la fin du XIXe siècle. Mais avant de passer la parole à ma camarade Farida Mekdoud, je voudrais exprimer notre protestation contre le bombardement de la Libye par des avions d'un certain nombre de grandes puissances, dont la nôtre, l'impérialisme français. Sarkozy, Obama et Cameron prétendent bien sûr que les bombes sont destinées à défendre la population libyenne contre son dictateur. Mais les grandes puissances impérialistes ont toujours mené leur guerre, même les plus abjectes, tantôt au nom de la démocratie, tantôt au nom de la liberté, quand ce n'était pas au nom de la civilisation, alors qu'elles sont toujours menées pour le pillage et l'exploitation. Oui, Kadhafi est un dictateur, c'est un ennemi de son peuple. Mais il était, il y a quelques mois, il y a quelques semaines seulement, un grand ami de Sarkozy et des autres dirigeants. Lorsque Sarkozy l'a reçu en grande pompe, on ne l'a pas entendu dénoncer la dictature, les emprisonnements arbitraires, les tortures et les assassinats dont Kadhafi était coupable. Non, à l'époque, c'était les tapes dans le dos, car son pouvoir garantissait l'accès au pétrole libyen et les commandes d'armes et d'avions passées auprès des groupes capitalistes français. Alors oui, Kadhafi est un ennemi de son peuple, mais les dirigeants impérialistes le sont infiniment plus, car ils soutiennent, entretiennent, arment des dizaines et des dizaines de Kadhafi de par le monde. Le fait d'avoir lâché leur allié ou leur protégé de la veille ne les rend pas meilleurs. Cela prouve seulement qu'ils considèrent qu'en n'étant plus capable de tenir son peuple, Kadhafi n'est plus à même d'assurer convenablement la défense de leurs intérêts. Cette guerre, elle est menée dans l'intérêt exclusif des trusts du pétrole, des marchands d'armes et du béton. car il faudra bien reconstruire les infrastructures démolies aujourd'hui par les Mirages et les Rafales français. Et la démonstration de force des grandes puissances n'est pas seulement destinée à Kadhafi et à son clan. Elle est destinée à tous les peuples arabes en ébullition pour leur montrer que l'impérialisme veille et qu'il n'a nullement l'intention de se désintéresser de ce qui se passe dans une région qui compte beaucoup pour ses intérêts. Alors, en tout cas, les travailleurs français n'ont pas à ressentir la moindre solidarité avec cette guerre de brigandage qui est menée. Et maintenant, je passe la parole à notre camarade Farida Mekdoud.
Bonsoir. Alors, comme vous le savez sans doute, le monde arabe s'étend de l'Asie à l'Afrique sur une surface de 13 millions de kilomètres carrés, soit l'équivalent de 25 fois la France. Il comprend une vingtaine de pays où vivent au total 250 millions de personnes. Cet espace qui va de la Mauritanie à l'ouest jusqu'à l'Irak à l'est, en passant par les pays du Maghreb, puis la Libye, l'Égypte, le Soudan, Djibouti, la Somalie, le Proche-Orient et toute la péninsule arabique, où se situent l'Arabie Saoudite, le Yémen et les Émirats du Golfe. Alors, vu le nombre, chacun de ces États a ses particularités et son histoire. Et si l'arabe est la langue largement dominante, d'autres langues, comme le berbère, sont toujours parlées par de nombreuses personnes en Afrique du Nord. Dès le Moyen-Âge, malgré la diversité religieuse et ethnique des peuples qui vivaient sous l'égide des califats qui se sont succédés, une unification culturelle nouvelle s'établit, fondée sur une religion, l'islam. Excusez-moi. Donc, dans ce vaste espace unifié, qui regroupait des terres de vieilles civilisations comme l'Égypte et la Mésopotamie, s'épanouit une civilisation originale qui marqua l'histoire de l'humanité par le rôle qu'elle joua dans le développement des sciences, de la philosophie et des techniques. Cette civilisation, qui avait elle-même puisé aux sources de la Grèce antique, féconda par la suite l'Europe du Moyen-Âge. Au XVIe siècle, l'ensemble des territoires arabes, à l'exception du Maroc, passèrent sous la domination des Turcs de l'Empire ottoman, ou si vous préférez, l'Empire turc. Chaque province avait une relative indépendance par rapport au sultan qui siégeait à Istanbul. Aucune frontière ne séparait, ne faisait entrave à la circulation des hommes, des idées, des marchandises. On pouvait, par exemple, aller librement de Alger à Bagdad ou au Caire. Jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, les pays européens et l'Empire ottoman avaient des niveaux de développement à peu près similaires. Mais à la fin du XVIIIe siècle, alors qu'en Europe la bourgeoisie accédait au rang de classe dominante et développait le capitalisme, l'Empire ottoman, lui, stagnait. La bourgeoisie était incapable, du fait de sa faiblesse, de la moindre transformation sociale. Affaibli, l'Empire ottoman devait faire face aux interventions de puissances européennes. Dès 1830, le roi de France chassait le dé d'Alger. Le roi de France chassait le dé d'Alger et occupait le pays. Occupée, pillée, l'Algérie a été colonisée durant 130 longues années. La Tunisie, elle, était convoitée à la fois par la France et l'Italie. Le bey de Tunis contracta un emprunt auprès des banques françaises, puis un deuxième, puis un troisième, et bientôt ce fut la banqueroute. En 1872, la Tunisie passa sous le contrôle financier de la France, de l'Italie et de la Grande-Bretagne. Et leurs capitaux s'investissaient dans l'exploitation des mines de phosphate. 10 ans plus tard, les troupes françaises débarquaient. Le pays était transformé en protectorat. Ainsi, avant 1914, la France avait ravi aux Ottomans leur contrôle sur 2 pays du Maghreb. Et elle s'intéressait de près au Maroc et à l'Égypte. En 1840, Mohamed Ali, gouverneur d'Égypte, devenu vice-roi, voulut faire de l'Égypte un État moderne et indépendant. Aussi, il réorganisa l'armée et créa une imprimerie d'État. Il instaura un nouveau code foncier qui favorisait la grande propriété. Sur certaines terres, l'État imposait des cultures de sucre, de coton, et assurer également la commercialisation de la récolte. Une industrialisation de l'Égypte s'amorça dans les secteurs de l'armement et du textile. Le télégraphe, la poste, le chemin de fer faisaient entrer le pays dans l'ère moderne. Le percement du canal de Suez, qui permettait de relier la Méditerranée à l'océan Indien via la mer Rouge, semblait couronner cet effort de modernisation et laissait espérer sans doute que l'Égypte allait combler le retard qu'elle avait sur l'Europe. Mais en inondant l'Égypte de ses capitaux, les banques européennes firent tomber le pays sous la dépendance. Les emprunts d'État constituaient à eux seuls 61% de l'ensemble des placements étrangers. La France détenait 60% de ses emprunts, qu'elle surnommait avec mépris « valeur à turban ». La France initia et porta le projet de construction du canal. Les travaux de terrassement furent assurés pour les 4/5 par les paysans égyptiens au titre de la corvée. Les bénéfices réalisés par la France et la Grande-Bretagne étaient exportables et libres de toute taxe. Lourdement endetté auprès des banques françaises et anglaises, l'État égyptien était déclaré en faillite en 1876 et bientôt placé sous la tutelle des puissances européennes. C'était une colonisation qui ne disait pas son nom. Les Britanniques contrôlaient directement les finances du pays. Un Anglais occupait même le ministère des Finances et un Français celui des travaux publics. L'Égypte, qui avait assuré le percement du canal de Suez avec le sang et la sueur de ses paysans, fut contrainte de revendre ses parts aux Anglais et ne bénéficia pas de l'exploitation du canal. Cependant, l'Égypte avait envoyé dans les grandes écoles militaires d'Europe de jeunes officiers arabes qui prirent ainsi contact avec les idées nouvelles. En 1879, les jeunes officiers égyptiens se rebellèrent face à des mesures discriminatoires qui favorisaient les officiers d'origine européenne. Le colonel Ourabi, à la tête de la révolte, devint très vite populaire. Paris et Londres envoyèrent leur flotte au large d'Alexandrie. Les troupes anglaises débarquèrent dans la région du canal, à Ismaïlia, et bombardèrent les positions égyptiennes. Dans les campagnes, des colonnes de paysans se portèrent au secours d'Ourabi et en profitèrent pour s'attaquer aux usuriers et aux gros propriétaires terriens qui les opprimaient. Les quartiers populaires des villes arabes se révoltèrent. Face aux armes à feu, ils se défendirent avec l'aide de gourdins, de cailloux et d'armes blanches. La révolte fut brisée par l'armée. Voilà une scène qui, d'un bout à l'autre du monde arabe, allait se reproduire fréquemment. D'autant que, pour le malheur de ces peuples, on découvrait que le sous-sol de la région était gorgé de pétrole. La situation des peuples arabes variait d'une province à l'autre au sein de l'Empire ottoman. Mais la lutte contre le pouvoir ottoman et contre les puissances impérialistes allait donner aux peuples arabes une conscience nationale arabe qu'ils n'avaient pas forcément jusqu'alors. Cette aspiration à se libérer de la tutelle ottomane allait se heurter aux impérialistes européens, et en premier lieu britanniques, qui considéraient cette région comme son domaine privé. Pour la Grande-Bretagne, il était vital de contrôler les routes terrestres et les détroits qui menaient à son empire des Indes, comme les détroits d'Aden et d'Ormuz. En plus de l'importance stratégique, la découverte du pétrole en Perse et en Irak décupla l'acharnement des Britanniques à contrôler la région. Ils signèrent des traités avec les Émirats qui bordaient le Golfe, les transformant en protectorats, et créèrent des frontières là où il n'y en avait pas, comme par exemple celle du Koweït. Les Britanniques contrôlaient depuis 1909 les gisements de Perse. Les convoitises et les rivalités entre les pays arabes furent encore aiguisées quand on découvrit l'immensité des gisements de Mésopotamie. Ces rivalités s'exprimaient aussi dans la construction de lignes de chemin de fer. La ligne Beyrouth-Damas était aux mains de la France, tandis que les Britanniques détenaient une partie du réseau de la Turquie. Quant à l'Allemagne, elle obtint la concession pour construire une ligne reliant Berlin à Bagdad. Les rivalités pour le repartage du monde s'exacerbaient. Elles allaient quitter l'arène économique pour se transformer en affrontement armé. Quand en 1914 la guerre éclata, les dirigeants ottomans se rangèrent du côté de l'Allemagne. La Grande-Bretagne fit alors le choix d'attiser le sentiment national arabe contre l'Empire ottoman. Elle promettait ainsi au prince Hussein, shérif de la Mecque, la création d'un grand royaume arabe qui devait englober tous les territoires à populations arabes. Les Britanniques utilisèrent à leur profit le nationalisme arabe et la révolte fut déclenchée le 5 juin 1916, avec le soutien aussi des militaires français. Voici ce qu'en disait l'officier britannique Thomas Edward Lawrence, immortalisé par le film « Lawrence d'Arabie ». Je le cite. « N'étant pas tout à fait idiot, je pouvais voir que si nous gagnions la guerre, les promesses faites aux Arabes seraient lettre morte. Si j'avais été un conseiller honnête, j'aurais renvoyé mes hommes chez eux sans risquer leur vie pour si peu. Mais l'inspiration arabe était notre meilleure arme pour gagner la guerre d'Orient. Je les assurais donc que l'Angleterre tiendrait sa parole. Au lieu d'être fière de ce que nous réalisions, j'éprouvais une honte permanente et amère. En effet, les peuples arabes allaient apprendre à leurs dépens qu'avec les impérialistes, loyauté et amitié ne sont jamais sincères et qu'aucune amitié ne résiste à leurs intérêts sonnants et trébuchants. Pour autant, la guerre contre l'Allemagne n'effaçait pas les rivalités qui opposaient les Français aux Britanniques. Le Moyen-Orient, en particulier les territoires arabes, a été l'objet de bien des marchandages dans lesquels la volonté des peuples arabes ne pesait pas lourd. Pendant que les troupes arabes remontaient vers le nord de la Syrie, animées par l'espoir d'unifier leur territoire, la France, la Grande-Bretagne et la Russie signaient en secret les accords Sykes-Picot où la promesse d'un royaume arabe avait disparu. La France revendiquait la Syrie au nom de la défense des communautés chrétiennes qui peuplaient les montagnes du Liban depuis 2000 ans. Les accords Sykes-Picot réservaient à la Grande-Bretagne une zone rouge dans la région de Bagdad et Bassora, et la France, elle, avait une zone bleue en Syrie. Rouge et bleu parce que c'était la couleur des crayons qui avait servi à tracer les frontières sur la carte. Ce fut un sacré charcutage. L'Empire ottoman n'allait pas résister aux assauts conjugués de l'impérialisme et de la révolte arabe. Le 30 septembre 1918, les armées arabes arrivaient à Damas. Le lendemain, les troupes britanniques pénétraient à leur tour dans la capitale et mettaient sur le trône le roi Hussein, le fameux shérif de la Mecque. Mais ce royaume arabe allait être éphémère. En effet, la Société des Nations, ancêtre de l'ONU, que Lénine qualifiait de repère de brigands, en décida autrement. Elle adopta le système des mandats pour les anciennes provinces arabes de l'Empire ottoman. Les nations avancées d'Europe étaient ainsi censées guider vers la maturité politique et l'indépendance des peuples considérés comme moins avancés. Selon ces brigands impérialistes, les peuples arabes n'étaient pas aptes à s'administrer eux-mêmes. La Société des Nations accordait à la France la Syrie et le Liban. La Grande-Bretagne confirmait son protectorat sur l'Égypte et recevait les territoires qui forment aujourd'hui Israël, la Palestine, la Jordanie et l'Irak. La France avait dû renoncer à ses ambitions sur la région de Mossoul, que les Anglais refusaient de lâcher à cause de son pétrole. En guise de compensation, la France reçut les parts allemandes dans les compagnies de pétrole de Mossoul. Des frontières nouvelles divisaient désormais les peuples arabes. Alors tous ces accords se faisaient sur le dos des peuples. Un vaste État arabe unifié aurait été indéniablement un progrès, même réalisé dans un cadre bourgeois. Mais exploiter les richesses de la région impliqué pour l'impérialisme d'empêcher à tout prix l'existence d'un tel État. Aussi, les Anglais et les Français mirent en place de façon systématique et cynique un découpage qui flattait les particularismes ethniques ou religieux. Ce morcellement constituait un facteur de division pour les peuples arabes et un frein à leur émancipation. Mais, dans cette après-guerre, les peuples n'avaient pas dit leur dernier mot. La guerre, pour pour reprendre l'expression de Lénine, avait été un formidable accélérateur de l'histoire. La vague révolutionnaire, partie en février 1917 de la Russie tsariste arriérée, allait déferler dans toute l'Europe. La révolution d'octobre ébranla le monde. Pour la première fois dans l'histoire, un gouvernement ouvrier exerçait le pouvoir en s'appuyant sur l'initiative et la participation active des masses pauvres, ouvrières et paysannes. Le pouvoir soviétique dénonça et publia tous les traités secrets. Il reconnut le droit à l'indépendance pour toutes les nationalités que les tsars avaient jusqu'alors opprimées. La Russie révolutionnaire, encerclée par les armées impérialistes, résista par une lutte acharnée. Et finalement, les impérialistes furent obligés de battre en retraite. Les bolcheviks espéraient que la révolution s'étendrait aux autres pays d'Europe. Aussi, en pleine guerre civile, ils mirent tout en œuvre pour aider à la formation d'une internationale ouvrière. Si la Russie révolutionnaire provoquait la haine des possédants, elle suscitait un immense espoir parmi les prolétaires et les masses pauvres en butte à l'oppression impérialiste et coloniale. Et justement, dans cette période d'après-guerre, les territoires arabes furent le théâtre, eux aussi, d'une vague de contestation sociale et nationale. Leur révolte était le produit à la fois de l'oppression nationale par les Européens et sociale contre les grands propriétaires fonciers et les patrons des usines qui les exploitaient. Les classes possédantes souffraient, elles aussi, de l'oppression nationale. Les officiers arabes, par exemple, n'appréciaient pas beaucoup d'être commandés par des officiers étrangers. Mais les classes dirigeantes arabes profitaient et s'accommodaient tout à fait de l'exploitation des paysans et des ouvriers. Elles voulaient chasser les étrangers pour simplement avoir tous les pouvoirs. Alors autant dire que le sentiment national des masses pauvres est bien différent du nationalisme de la bourgeoisie. Dans la période qui s'ouvrait, ces masses pauvres allaient faire irruption de façon répétée sur la scène sociale. Alors, quels étaient les choix politiques qui s'offraient à elles? Au nom de la lutte contre les Européens, au nom de l'unité, allaient-elles combattre derrière la bourgeoisie ou allaient-elles combattre sous leur propre drapeau, pour leurs propres intérêts de classe? Cette question s'est posée pour chaque vague de lutte, dans les années 20, puis dans les années 30, et enfin lors de la révolte coloniale qui secoua le monde après la Deuxième Guerre mondiale. L'internationale communiste accordait une grande importance aux luttes d'émancipation nationale. Lénine traçait une politique pour les militants communistes dans les colonies. Le prolétariat y était naissant, minoritaire certes, mais c'était lui l'avenir. Pour les dirigeants bolcheviks, Lénine et Trotsky, les partis communistes des colonies devaient être en pointe dans la lutte contre les colonisateurs, soutenir le cas échéant les partis bourgeois révolutionnaires, mais à la condition que les communistes arborent leur propre drapeau, leur programme et préservent l'indépendance politique du prolétariat. L'internationale communiste, dans les années 20, n'avait cependant pas encore les éléments humains en nombre suffisant pour mener une telle politique. Des groupes communistes de plus ou moins grande importance se formèrent dans les années qui suivirent la guerre. Les idées communistes empruntèrent parfois des circuits détournés pour arriver dans les pays arabes. À Jaffa, ce furent des militants juifs de Pologne, d'Ukraine et de Russie qui créèrent le Parti communiste de Palestine. À Alexandrie, en Égypte, le premier groupe de sympathisants communistes comptait 25 membres, 2 arabes, 3 juifs, un italien et une majorité de grecs. Ils étaient peu nombreux, mais les polices britanniques et françaises les surveillaient de près, conscients qu'ils pouvaient devenir rapidement une force. En 1919, en Égypte, les Britanniques obtinrent du grand mufti, c'est un haut dignitaire religieux, une fatwa contre le bolchevisme. Mais malgré la fatwa, un observateur de l'époque raconte que, je cite, « les nouvelles des victoires des bolcheviks en Russie et en Asie provoquent la joie dans toutes les classes de la société égyptienne ». C'est d'Égypte, justement, qu'allait partir la révolte. La guerre avait transformé le pays. Pour répondre à la demande des pays en guerre, l'Égypte s'était industrialisée et avait développé les secteurs du textile, de la production de sucre, de cigarettes. Le nombre de cheminots avait été multiplié par 4. Un prolétariat s'était rapidement constitué. Dans les campagnes, les réquisitions de céréales, de coton et de bétail imposées par les Britanniques furent durement ressenties. Les hommes aussi furent réquisitionnés. Plus de 200 000 paysans avaient été arrachés à leur campagne pour être incorporés dans l'armée. Et une fraction avait même suivi les armées britanniques jusque sur les fronts de la Somme et des Flandres. Mais avec la fin de la guerre, les usines s'étaient vidées. Le chômage avait explosé et le mécontentement touchait l'ensemble des classes populaires. Des parlementaires du parti Waft, qui représentait la bourgeoisie égyptienne, pensaient que le moment était venu de s'affranchir de la tutelle européenne. Ils furent encouragés par une déclaration des Françaises et des Britanniques qui s'engageaient sans complexe à soutenir, je les cite, « l'émancipation complète et définitive » des peuples si longtemps opprimés par les Turcs. Les parlementaires égyptiens prirent cette déclaration pour argent comptant et demandèrent à être reçus pour plaider la cause de l'indépendance devant la conférence de la paix qui devait se tenir à Paris. Leur leader, Saad Zaghloul, fut aussitôt arrêté et exilé manu militari. Quand la nouvelle arriva au Caire, elle déclencha une révolte générale qui dura toute l'année 1919. Des manifestations d'étudiants, de fonctionnaires, d'artisans et d'ouvriers des chemins de fer s'étendirent en quelques jours à la plupart des grandes villes du pays. Le mouvement s'étendit aussi aux campagnes, jusque-là considérées comme le monde de la passivité et du fatalisme. Sous la pression populaire, les Britanniques se résignèrent à mettre un terme au protectorat. Et en 1922, l'Égypte accédait à une relative indépendance. Le roi Farouk se retrouvait à la tête d'une monarchie parlementaire, dans laquelle les Britanniques conservaient quand même les ministères des Affaires étrangères et de la Défense. Cela dit, ce recul des Britanniques fit essaimer la révolte à des degrés divers dans les autres régions arabes. À Damas, le mouvement nationaliste s'était enrichi d'une nouvelle génération qui avait mûri avec la guerre. On comptait parmi eux de jeunes officiers irakiens ainsi que de jeunes Syriens issus des classes des couches moyennes. Tous refusaient la mainmise de l'impérialisme. Leur programme politique était le nationalisme arabe. Un congrès arabe avait adopté en 1919 un programme donc qui revendiquait l'indépendance d'une fédération syrienne qui engloberait le Liban et la Palestine. Le prince arabe Faisal devait prendre la tête de ce nouveau royaume indépendant. Les Arabes refusaient les mandats qui les plaçaient sous la dépendance franco-britannique. Mais la France entendait bien imposer son mandat sur la Syrie. Elle le fit en envoyant 70 000 soldats et en bombardant Damas le 24 juillet 1920. Ce jour-là, la France venait d'illustrer de quelle manière elle concevait son rôle de guide vers l'indépendance. Par la suite, la France divisa la région en 5 entités distinctes. L'État indépendant de Damas, le gouvernement d'Alep, le territoire autonome des Alaouites, le Djebel Druze autonome et enfin l'État du Grand Liban. Ce découpage favorisait les clientèles confessionnelles de la France, à commencer par la bourgeoisie chrétienne maronite. Ce choix de favoriser les chrétiens n'était pas nouveau. Dans ce but, la République laïque avait implanté 500 écoles religieuses françaises qui scolarisaient 50 000 élèves en Syrie. Dans cette région coexistait une mosaïque de confessions, juifs, chrétiens jacobites, catholiques, orthodoxes et maronites. Parmi les musulmans, on comptait divers courants d'islam, des sunnites, des chiites, des druzes. Toutes ces populations arabes avaient vécu ensemble durant des siècles. Mais les Françaises et les Britanniques allaient créer et attiser les divisions. Les Français firent le choix de s'appuyer sur les chrétiens. Les Britanniques, quant à eux, jouèrent en Palestine la carte sioniste. Ils voyaient d'un bon œil la création d'un foyer de peuplement juif. Les conflits probables qui surgiraient inévitablement entre sionistes et arabes leur donneraient un rôle d'arbitre. La révolte rebondit également en Irak, où coexistaient là aussi de multiples minorités, juives, chrétiennes, kurdes et chiites. Cette région constituait pour les Britanniques, je vous l'ai dit tout à l'heure, un bastion avancé de la défense de leur empire des Indes et un élément clé du commerce maritime avec l'Extrême-Orient. Et puis surtout, l'Irak, c'était d'importants gisements de pétrole, d'une grande qualité et facile à exploiter. L'ampleur des forces que les Britanniques déployèrent dans la région témoignait de l'importance qu'ils lui accordaient. Plus d'un million de soldats quadrillaient le territoire pour une population de seulement 3 millions d'habitants. Mais cela n'empêcha pas l'insurrection du peuple irakien qui refusait d'être une colonie britannique. En Irak, le mouvement communiste était embryonnaire. Les idées communistes avaient été introduites par quelques individus, tel cet étudiant qui se trouvait à Berlin en 1919, au moment où l'Allemagne se couvrait de conseils ouvriers, ou ce tailleur itinérant du nom de Piotr Vassili, qui avait vécu en Géorgie et qui créa en l'espace d'une dizaine d'années des cercles communistes dans toutes les villes où il était passé, que ce soit Bagdad, Bassora ou la Syrie. En Irak, la révolution russe avait eu un écho jusque dans les mosquées, au point que des oulémas eurent de vifs débats pour savoir si, oui ou non, le bolchevisme était compatible avec l'islam. Et certains prirent contact avec les bolcheviks à Bakou en 1920, lors du congrès des peuples d'Orient organisé par l'Internationale communiste. Mais ce furent surtout les révoltes d'Égypte et de Syrie qui encouragèrent la révolte en Irak. La révolte se déclencha dans le Moyen-Euphrate lorsqu'un cheikh fut arrêté pour avoir refusé de payer des taxes à l'État. La plupart des leaders nationalistes de Bagdad et des grandes villes furent incarcérés par les Anglais à la mi-août 1920. Mais face à la profondeur de la révolte, les Britanniques renoncèrent à gouverner directement l'Irak. À la place, ils firent le choix de s'appuyer sur l'émir Faisal, vous savez, celui qui n'avait pas pu être roi de Syrie. Il avait été chassé de Syrie par les Français et était exilé au bord d'un lac italien. Les Britanniques lui offraient de devenir roi d'une monarchie constitutionnelle en Irak, bien sûr sous tutelle britannique. Il restait juste à concevoir une mise en scène susceptible de faire apparaître ce scénario britannique comme l'authentique vœu des populations locales. Aussi, l'émir Faisal se rendit à La Mecque, d'où il envoya un télégramme aux principaux notables d'Irak, dans lequel il acceptait, disait-il, de se mettre au service du peuple irakien. Ainsi, une monarchie constitutionnelle était proclamée le 11 juillet. Tout comme en Égypte, c'était une fiction d'indépendance qui préservait avant tout les intérêts britanniques. La Grande-Bretagne se réservait la défense aérienne du territoire ainsi que le contrôle de la politique étrangère et bien sûr les finances. Le nouveau pouvoir irakien devait en outre prendre en charge 25% de l'occupation militaire britannique. La population irakienne se sentait frustrée des bénéfices de la révolte de 1920 et rejetait le roi Faisal qui n'était à ses yeux rien d'autre qu'un fantoche à la solde de l'impérialisme. Faisal n'avait pas obtenu la Syrie, mais les découpages impérialistes profitèrent à son frère Abdallah, à qui on tailla sur mesure un royaume en Transjordanie. Quant à leur père, le fameux Hussein, shérif de La Mecque, le royaume d'Arabie lui échappa. En effet, les Britanniques, pour s'imposer dans la péninsule arabique, avaient joué émir contre émir, et finalement, ils choisirent son rival, Ibn Saoud. Ce dernier, Ibn Saoud, unifia derrière lui la plupart des tribus arabes, avec comme objectif de contrôler la péninsule et contrôler la capitale religieuse, La Mecque. Il reconnaissait servilement toutes les frontières artificielles que des nouveaux pays créés par les Britanniques. L'accès de l'Irak à la mer était amputé par la création du Koweït, qui ne lui laissait que 40 km de côte, d'ailleurs impraticable. Saoud s'était imposé par les armes, certes, mais aussi par une politique matrimoniale très active, puisque pour soumettre les différentes tribus, il avait épousé pas moins de 200 femmes. Alors autant dire que sa nombreuse descendance grevait lourdement le budget du royaume. Et ne croyez pas que maintenir un train de vie de prince soit si facile. Ses fins de mois étaient délicates et il était en quête permanente d'argent. Les géologues britanniques, qui avaient prospecté un peu partout autour du Golfe, avaient décidé que Bahreïn et l'Arabie ne contenaient pas une goutte de pétrole. Cela ne faisait évidemment pas les affaires de Saoud. Mais en 1932, un géologue américain découvrit des formations géologiques qui indiquaient la présence de pétrole en quantité importante. Saoud décida d'ouvrir les trois quarts de son territoire aux compagnies pétrolières. Les Britanniques, sceptiques sur la réalité de ces gisements, proposèrent avec beaucoup de mépris de payer les concessions en roupies indiennes. Les Américains, conscients de l'immense gisement qu'ils avaient sur leurs pieds, proposèrent, eux, de payer en or et emporter le marché. Les États-Unis prenaient solidement pied dans la péninsule arabique qu'ils ne devaient plus quitter. Alors, au bilan, dans les révoltes qui avaient secoué ces pays au sortir de la guerre, le sentiment national partagé par l'ensemble des populations arabes avait été le principal facteur de révolte. Mais le prolétariat, qui avait participé à la révolte et combattu avec ses armes de classe, n'avait pas réussi à en prendre la tête. Ce furent les brigands impérialistes qui poussèrent malgré eux les peuples arabes à vouloir s'unir. Par leur méthode commune d'oppression, ils éveillèrent un sentiment national arabe puissant, auquel s'identifièrent y compris des ethnies non arabes comme les Berbères du Rif, les Druzes du Liban ou les Kurdes du nord de l'Irak. Au milieu des années 20, les puissances européennes eurent toutes les difficultés à se maintenir dans les pays arabes. Du Maroc à l'Irak, elles furent confrontées à une succession de révoltes. Cette révolte se nourrissait de tout ce qui contestait la domination des impérialistes. Au Maroc, les Espagnols furent mis en échec par l'insurrection d'Abdelkrim, un chef de tribu berbère qui parvint à créer dans le Rif un État indépendant de 3 millions d'habitants. Cela suscita la ferveur et l'espoir d'un bout à l'autre du monde arabe. Il était donc possible à un peuple arabe de l'emporter face aux Européens. L'insurrection marocaine effraya le gouvernement français, qui pressentait une possible contagion à ses colonies algériennes et tunisiennes, ainsi qu'en Syrie. Les combattants du Rif étaient animés, eux, de toute l'énergie d'un peuple qui refuse la soumission. La France dut envoyer un corps expéditionnaire de 800 000 hommes et employer l'artillerie lourde pour réduire les 75 000 insurgés marocains. Abdelkrim et ses troupes avaient été vaincus, mais en tenant tête farouchement à un des plus puissants impérialismes de la planète, ils avaient gagné pour toujours le cœur des masses arabes opprimées. La révolte du Rif, à peine écrasée, ce furent au tour des Arabes de Syrie de s'insurger. Les troupes françaises, fortes de leur expérience coloniale au Maghreb, et à l'époque déjà très fières de leur fameux savoir-faire en matière de répression contre les Arabes, comme dirait l'autre, donc ces Français étaient arrivés en Syrie en terrain conquis. La population syrienne qui avait rejeté l'occupation ottomane se retrouvait avec des occupants encore plus arrogants. C'est un militant expulsé d'Égypte, Fouad Chemali, qui fut au Liban, qui fut en 1923 à l'origine du Parti communiste du Liban et de Syrie. Ouvrier dans une usine de cigarettes à Beyrouth, il mit sur pied un syndicat, puis en moins de 2 ans, il parvint à organiser syndicalement les travailleurs de l'imprimerie, de la chaussure, de la restauration, des transports et du bâtiment. Avec une dizaine de camarades, il prit contact avec l'Internationale communiste. Ils furent rejoints par des militants d'origine arménienne qui avaient connu le mouvement ouvrier russe et côtoyé les bolcheviks. Les militants communistes de Syrie et du Liban étaient regroupés dans la même organisation et dénonçaient la création artificielle des frontières qui séparaient la Syrie du Liban. Ce tout jeune parti, composé essentiellement de travailleurs, publia le premier numéro de son journal en 1925. Au bout de 5 numéros, le parti et son journal étaient interdits, et la rédaction sous les verrous. La répression et la brutalité de l'armée française excédèrent même les notables de ruse que la France avait pourtant flattés. Au printemps 1925, une délégation de notables de ruse décida de protester auprès du haut-commissaire français à Damas. Ils furent tous arrêtés et déportés. Ce fut le déclenchement de la révolte des Druzes qui s'étendit à toute la Syrie. Les Français occupèrent Damas, mais la révolte continua à s'étendre et gagna le Liban. À Beyrouth, une manifestation organisée par les communistes fut réprimée dans le sang. La répression mit un terme à l'agitation, mais ce répit fut de courte durée. En effet, en 1929, éclatait à Wall Street la crise économique, la crise la plus profonde que le monde ait connue. L'onde de choc s'étendit au monde entier. Pour y faire face, les bourgeoisies d'Europe multiplièrent les barrières douanières pour se protéger de leurs concurrentes et se replièrent encore plus sur leur empire colonial. Et en même temps qu'elles mettaient au pas leur classe ouvrière, elles firent payer la crise au prix fort au peuple colonisé, en aggravant l'exploitation des travailleurs dans les colonies. De fait, c'est dans le monde entier que les conditions de vie des classes ouvrières se dégradèrent brutalement. La crise, conjuguée à la victoire du nazisme en Allemagne, provoqua un sursaut du monde ouvrier. Grève générale et occupation d'usines en France, révolution ouvrière en Espagne, la domination de la bourgeoisie était ébranlée. La crise provoqua aussi de nouvelles révoltes dans le monde arabe. Ces révoltes s'influencèrent les unes les autres, du Maghreb à l'Irak. Elles étaient à la fois le produit de la dégradation de la vie des classes populaires et celui du sentiment anticolonial. Le morcellement subi par les populations arabes renforçait leur aspiration à l'unité et à une nécessaire solidarité contre l'oppression commune. Ce sentiment pan-arabe fut exprimé par des intellectuels bourgeois qui cherchaient des solutions nationales et bourgeoises pour créer l'unité arabe. En même temps que ces intellectuels bourgeois popularisaient dans leurs journaux les luttes des Marocains, celles des Arabes de Palestine, en passant par l'action de Messaliadj en Algérie. Mais la vague de révolte des années 20 avait fait naître aussi parmi les masses exploitées le sentiment de faire partie d'une même collectivité d'opprimés. En 1936, les classes populaires arabes firent irruption de nouveau sur la scène politique. Le prolétariat connut ses premières grèves importantes, précédant même parfois les luttes ouvrières en Europe. Le Front populaire en France allait-il soutenir et mettre en œuvre l'indépendance tant espérée ? C'est l'espoir qu'avaient les populations des colonies françaises. Eh bien, ces espoirs furent vite déçus. Le Parti socialiste qui dirigeait le Front populaire n'avait pas du tout l'intention de mettre à mal les intérêts de la bourgeoisie française. Quant au Parti communiste qui soutenait le Front populaire, il n'était plus ni révolutionnaire ni internationaliste. Il était devenu un instrument docile au service de la bureaucratie stalinienne. Staline s'était senti menacé par l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Aussi, il avait noué des alliances avec les pays impérialistes opposés à l'Allemagne. Dès lors, les partis communistes se devaient de défendre leur gouvernement sous prétexte de défendre les démocraties contre le fascisme. Ainsi, en 1936, en France, le Parti communiste mit tout son poids pour sauver l'ordre bourgeois, expliquant aux travailleurs qu'il fallait savoir arrêter une grève lorsque les revendications avaient été satisfaites. En Algérie, le Parti communiste algérien, composé essentiellement d'Européens, n'hésitait pas à écrire, je cite, « C'est faire le jeu du fascisme international que de se livrer à des provocations en réclamant l'indépendance ». Mais malgré cela, la révolte explosa quand même. En Tunisie, la montée ouvrière avait commencé bien avant 1936. Dans son roman « La terre des passions brûlées », Béchir Kraïef raconte les conditions vécues par les villageoises et les villageois de Metlaoui, près de Gafsa, travailleurs donc des mines de phosphate. Ce roman décrit le racisme, les brimades exercées par l'encadrement européen, mais aussi l'oppression des femmes, et il décrit aussi la prise de conscience des travailleurs lors de leur première grève. En 1936, une vague de grèves et de manifestations nationalistes déferla sur toute la Tunisie. La répression s'abattit aussitôt, en particulier sur les militants communistes. Les syndicats en Tunisie réclamèrent que les accords Matignon soient aussi appliqués en Tunisie. Les grèves se généralisèrent dans le secteur du bâtiment, entraînant des milliers de travailleurs français et tunisiens qui luttaient côte à côte. En août 1936, face à la détermination du mouvement, l'application des accords Matignon fut arrachée. C'était une victoire pour tous les travailleurs de Tunisie. En revanche, le gouvernement ne céda pas sur ce qui portait atteinte au pouvoir des colons. L'agitation ouvrière se poursuivit pendant 2 ans dans les mines de phosphate et dans les chantiers, et la répression fit des dizaines de morts. L'incendie social se propagea au Maroc, à l'Irak, en passant par l'Algérie, l'Égypte, la Syrie et la Palestine. En 1936, en Syrie, une grève de 50 jours précéda de plusieurs mois celle des travailleurs en France. Partie de Damas, elle s'étendit à toutes les grandes villes du pays. Des manifestations de soutien eurent lieu au Liban. Le gouvernement français du Front populaire fut contraint d'ouvrir des négociations en vue de l'indépendance. Mais la promesse de celle-ci ne fut accordée que sur le papier. Mais c'est sans doute en Palestine que la contestation fut la plus explosive. L'occupation britannique y était devenue insupportable. Les sionistes, protégés par les Anglais, achetaient des terres aux grands propriétaires fonciers arabes, chassant les Palestiniens qui y travaillaient. La multiplication des colonies juives attisait la colère. Toute la population de Palestine se mit en mouvement. Les ouvriers cessèrent le travail, les commerçants baissèrent leurs rideaux. La population s'arma et affronta l'armée britannique dans des batailles rangées. La grève dura 6 mois et fit plus de 200 morts et 800 blessés. Dans les 3 années qui suivirent, les campagnes palestiniennes entrèrent à leur tour en insurrection. La révolte palestinienne suscita la sympathie de tous les peuples arabes de la région. Des jeunes Égyptiens, Syriens, Jordaniens affluèrent en Palestine et se portèrent volontaires pour prêter main forte aux Palestiniens. Ils se heurtèrent aux Anglais, mais aussi aux milices de défense juives. Les Britanniques durent aligner 30 000 soldats pour venir à bout de la révolte. Mais leur objectif était atteint. Si leur politique avait contribué à renforcer un sentiment national arabe, elle avait aussi réussi à creuser un fossé entre les populations arabes et juives. Contestés en Palestine, les Britanniques le furent aussi en Irak. Le régime du roi Faisal, qu'il soutenait, fut menacé par des révoltes ouvrières et paysannes. Les salaires des cheminots et des travailleurs du pétrole avaient chuté brutalement, et la paupérisation des masses paysannes ne cessait de s'aggraver. De plus, la nouvelle loi sur la conscription les astreignait au service militaire, servitude que jamais personne ne leur avait imposée. Malgré l'envoi de troupes de plus en plus nombreuses, la contestation s'étendit et les révoltés forcèrent le gouvernement à démissionner. À la fin de 1936, un officier hostile à la monarchie de Faisal organisa un coup d'État militaire. Le roi demeura, mais l'armée forma un nouveau gouvernement auquel était associé le Parti du Peuple, un parti nationaliste créé par un groupe d'étudiants durant la grève. Ce ravalement de façade, au lieu d'arrêter le mouvement, l'amplifia. En mars 1937, les grèves ouvrières paralysèrent le port de Bagdad et s'étendirent aux champs pétrolifères au nord du pays. Les stations de forage et de pompage, le barrage de Kut, les ateliers ferroviaires de Bagdad, les usines textiles et même une base militaire furent touchées. C'était la première grève d'ampleur nationale en Irak. Les travailleurs se révoltaient contre la monarchie pourrie, mais aussi contre l'exploitation. Les débardeurs du port, par exemple, travaillaient 14 heures par jour pour des salaires dérisoires. Les enfants dans les usines travaillaient 10 heures par jour. Face à la puissance et à la généralisation du mouvement, les conservateurs de tous bords, les bourgeois, les grands propriétaires fonciers et les chefs de l'armée eux-mêmes prirent peur. L'armée, qui avait porté tous les espoirs, réprima férocement. Le tout jeune mouvement communiste, dont les premières cellules clandestines s'étaient constituées en 1934, fut frappé par la répression. À la fin des années 30, de chaque côté de la Méditerranée, les révoltes ouvrières en Europe et celles des pays arabes avaient été vaincues. Mais les peuples arabes avaient pris conscience que leurs luttes étaient liées les unes aux autres et qu'ils avaient les mêmes intérêts face aux mêmes oppresseurs, les puissances coloniales européennes. Ces révoltes des années 30 avaient renforcé parmi les masses arabes le sentiment puissant de faire partie d'une même collectivité d'opprimés. Ce sentiment était un facteur révolutionnaire de première importance, mais il pouvait être exprimé par deux forces sociales antagonistes. Soit les masses opprimées prenaient la direction de la révolte, soit c'est la bourgeoisie nationaliste qui reprenait à son compte ce sentiment pour le canaliser et, au bout du compte, l'étouffer. En Europe, le mouvement ouvrier, trahi par ses organisations, n'avait pu s'opposer à une nouvelle guerre mondiale. Les bourgeoisies se lancèrent dans la Seconde Guerre mondiale pour tenter une nouvelle fois de se repartager le monde. Le Moyen-Orient, avec son pétrole et ses détroits maritimes, représentait plus que jamais un enjeu stratégique de première importance. Spectateurs du conflit mondial, les peuples colonisés observèrent, il faut bien le dire, avec une certaine satisfaction, la débâcle française en 1940, ainsi que les bombardements allemands sur la Grande-Bretagne. La Seconde Guerre mondiale avait modifié le rapport des forces entre les grandes puissances. Les grands vainqueurs étaient les États-Unis et l'URSS. L'affaiblissement des pays d'Europe encourageait les pays arabes à s'émanciper de la tutelle coloniale. Mais les vieilles puissances européennes se sont d'autant plus accrochées à leur empire qu'elles s'étaient affaiblies. Ce qui préoccupait les dirigeants du monde, c'est que la Deuxième Guerre mondiale ne débouche pas sur une vague révolutionnaire qui les aurait emportés. Staline, comme Roosevelt, se rappelait la vague qui avait suivi la Première Guerre mondiale, et ils firent tout pour empêcher que cela se renouvelle. Grâce au soutien des PC, les appareils d'État bourgeois furent remis en selle, évitant la révolution en Europe. Mais ils ne purent éviter la révolte qui surgit dans les colonies. Dans l'ensemble du monde arabe, il fallait désormais compter sur une classe ouvrière renforcée numériquement et organisée dans des syndicats et des partis communistes puissants. Comme dans les révoltes précédentes, le prolétariat avait à lutter pour son émancipation sociale et nationale. Face à cette tâche, quelle fut l'attitude de ces organisations et en particulier du mouvement communiste? Le rôle de l'URSS pendant la guerre, avec la victoire de Stalingrad, avait considérablement augmenté son prestige dans le monde arabe. Les jeunes ouvriers et intellectuels qui aspiraient à renverser l'ordre colonial et social se tournèrent vers l'URSS et les partis communistes. Ils n'avaient aucune idée des combats que la bureaucratie avait livrés contre les révolutionnaires et ignoraient que Staline avait liquidé l'héritage communiste. À l'échelle de la planète, seule une infime minorité de militants regroupés autour de Trotsky avaient compris ce qui se passait en URSS et luttaient contre cette évolution. Mais les meilleurs d'entre eux, les militants de l'opposition de gauche en Union soviétique, dépositaires des traditions du parti bolchevique, furent déportés en Sibérie avant d'être massacrés. Les trotskistes furent traqués, exclus des PC et coupés de la classe ouvrière. Pour la première fois de son histoire, le fil qui reliait la classe ouvrière aux idées révolutionnaires était rompu. Mais tout cela, les révoltés des pays arabes ne le savaient pas. Pour eux, l'URSS était la patrie du communisme, considérée à juste titre comme un pays différent des autres, un pays anti-impérialiste qui les soutenait, un modèle dont il fallait s'inspirer. Staline, son chef, était respecté et vénéré. À Moscou, une université des peuples d'Orient avait accueilli des militants pour les former, leur transmettre un bagage politique, des méthodes organisationnelles. Ces militants qui, dans les années 30, 40, fondèrent et rejoignirent les partis communistes, étaient sincères, dévoués et courageux. Mais le communisme qu'on leur transmettait était un communisme frelaté, infecté par le poison du nationalisme. Un communisme qui tournait le dos à toute l'expérience sciemment acquise par la classe ouvrière depuis plus d'un siècle, et qui tournait le dos à la révolution russe elle-même. La bureaucratie soviétique cherchait à s'allier à des États qui renforcent son bloc, pas à susciter des révolutions ouvrières qui l'auraient fragilisé et sans doute balayé. Voilà dans quel contexte dramatique se produisit l'essor des partis communistes arabes. Grâce à la ténacité de ses militants, ces partis allaient s'implanter dans la classe ouvrière, mais l'objectif qu'ils assignaient à la lutte des travailleurs n'était plus son émancipation sociale. Guidés par Moscou, ils ne proposèrent pas aux travailleurs une politique indépendante, une politique prolétarienne qui prenne en charge à la fois les aspirations sociales et nationales. Non, ces partis communistes se retrouvèrent à la remorque des forces nationalistes bourgeoises au moment même où la classe ouvrière faisait preuve d'une formidable vitalité et apparaissait comme la force motrice de la contestation. Le prolétariat industriel des pays arabes restait certes minoritaire, mais il était concentré et occupait une place unique par le rôle qu'il jouait dans la production. Il était proche des masses pauvres urbaines au milieu desquelles il vivait et était en contact avec les masses pauvres des campagnes dont il connaissait les souffrances. D'un bout à l'autre du monde arabe, le prolétariat avait à lutter contre les mêmes oppresseurs. L'aspiration à l'émancipation nationale se développait en même temps qu'un sentiment de classe que, d'une certaine manière, les partis communistes incarnaient. Forte socialement, la classe ouvrière allait être désarmée politiquement par les dirigeants staliniens au cours de la révolte coloniale qui se déclencha le jour même de l'armistice. La révolte commença en Algérie le 8 mai 1945, lorsque, dans le Constantinois, la police française voulut empêcher des manifestations de brandir le drapeau algérien. À Sétif, le défilé tourna à l'émeute qui s'étendit le jour suivant. Ce fut le signal d'une répression féroce qui s'abattit sur toute la région. La loi martiale fut proclamée et un navire de guerre bombarda les insurgés. Ces massacres firent 40 000 morts et furent accompagnés d'une répression légale qui s'abattit sur tout le pays, avec l'arrestation massive de militants syndicaux et politiques. L'ordre colonialiste était préservé en Algérie, où les Arabes avaient été mis au pas. En Syrie, les troupes françaises eurent bien plus de mal. Le mois de mai 1945, commencé par des grèves et des manifestations, s'acheva par une véritable insurrection. Tout ce qui symbolisait le pouvoir de la France fut l'objet d'attaques, casernes, bureaux délégation française. En réponse, l'armée française n'hésita pas à attaquer le Parlement syrien à l'arme lourde. En solidarité avec leurs frères de Syrie et du Liban, les peuples arabes des pays proches furent appelés à une grève générale de solidarité. L'embrasement généralisé de la région effraya les Britanniques, qui étaient eux-mêmes empêtrés dans des révoltes en Irak et en Palestine. Les Français durent quitter, plier bagages en avril 1946, et cela au grand soulagement des populations. Les Irakiens, encouragés par leurs frères de Syrie, espéraient bien chasser les Britanniques. Le parti communiste irakien avait su résister à la répression. Il avait gagné en implantation et en influence dans la classe ouvrière, ainsi que dans toutes les couches de la société. Bagdad comptait, après la Deuxième Guerre mondiale, 180 000 ouvriers et 70 000 employés. Entre 1944 et 1946, le taux de syndicalisation variait de 30 à 60% parmi les travailleurs du pétrole et des chemins de fer. Et il était également très élevé parmi les dockers de Bassora. Les syndicats de ces secteurs étaient dirigés par des militants communistes. Face aux grèves ouvrières et à la révolte de la population au Kurdistan, le pouvoir toujours aux mains des impérialistes déclara la loi martiale et réprima. Durant tout le mois de janvier, la jeunesse des écoles et des universités s'opposa au traité qui faisait de l'Irak un protectorat britannique. Ce soulèvement de la jeunesse scolarisée et de la petite bourgeoisie coïncidait avec un niveau historiquement bas des salaires qui propulsa les ouvriers dans la bataille. Le 20 janvier 1946, il y eut de grandes manifestations étudiantes et pour la première fois se joignirent au cortège des ouvriers et des pauvres des bidonvilles. La police tira dans la foule, mais les manifestants ne se dispersèrent pas. Malgré la répression, le mouvement grandit encore, entraînant de nouvelles catégories sociales. Face à la puissance du mouvement, le roi fut contraint d'annuler le traité, ce qui amena certains partis d'opposition à cesser le mouvement. Mais, à l'appel du Parti communiste, les étudiants et les ouvriers venus des quartiers populaires manifestèrent en masse. Le Parti communiste était devenu la force principale, mais le seul objectif qu'il assigna au mouvement, c'était l'établissement d'un régime démocratique. Malgré les centaines de morts, la montée ouvrière ne s'arrêta pas. L'année 1948 fut une année record pour les grèves. Les travailleurs revendiquaient des droits démocratiques, certes, mais ils revendiquaient aussi du pain et des chaussures. Mais la politique du Parti communiste les laissait sans perspective. L'Égypte aussi fut le théâtre d'une agitation sociale sans précédent. Le pays était soi-disant indépendant, mais la présence de centaines de milliers de soldats britanniques, notamment dans la région du canal, excédait toute la population. La présence britannique et la guerre avaient cependant bénéficié à toute une classe de riches. La puissante société Misre, par exemple, avait réalisé de somptueux bénéfices dans la production textile destinée à équiper les armées alliées. Avec la fin de la guerre, 250 000 travailleurs employés par l'armée anglaise furent licenciés, ainsi que 300 000 ouvriers du secteur privé. Les salaires baissèrent, les inégalités sociales étaient criantes, le luxe pour les uns et la misère pour les autres. Entre 1945 et 1947, les manifestations de masse contre l'occupation britannique se succédèrent. Des grèves éclatèrent. Dans les principales usines du groupe Misre, des comités de grève se mirent en place, animés souvent par des communistes. Dans les universités et les écoles secondaires aussi, la jeunesse créa ses propres comités. En février 1946, la police tira sur les manifestants. La répression fit plusieurs morts et des centaines de blessés. La colère s'étendit à tout le pays. Dans la foulée, l'ensemble des comités de grève, ceux des usines et ceux des universités, se coordonnèrent en un comité national des ouvriers et des étudiants. Le comité national appela à manifester dans tout le pays le 21 février. Les manifestations furent accueillies par le feu des mitrailleuses anglaises. Les funérailles des victimes furent l'occasion de manifestations encore plus massives et à nouveau réprimées, et le mouvement dura jusqu'en juillet. Alors, la chasse aux militants fut ouverte. Au cours de l'année 1948, le régime du roi Farouk en Égypte, comme celui de Faisal en Irak, l'un et l'autre, soutenus par les Britanniques, étaient complètement discrédités. En Égypte comme en Irak, la classe ouvrière avait montré sa puissance, sa détermination. Allait-elle s'en servir pour mettre à bas à la fois des régimes monarchiques, l'occupation britannique et la domination des classes possédantes? Cette possibilité existait, le potentiel révolutionnaire aussi, mais aucun parti communiste n'alla dans ce sens. Au contraire, ils mirent la force de la classe ouvrière au service des forces bourgeoises que des officiers de l'armée allaient incarner. Mais en cette année 1948, ce qui sauva pour un temps ces régimes haïs, ce fut la naissance de l'État d'Israël et la guerre israélo-arabe qui s'ensuivit. La guerre entre Israël et les pays arabes mit un frein brutal à l'explosion sociale. Elle servit de dérivatif, créant en Irak et en Égypte un semblant d'unanimité nationale derrière les dirigeants. Les régimes irakiens et égyptiens proclamèrent l'un et l'autre la loi martiale, sous prétexte de l'éclatement du conflit en Palestine. Alors je voudrais maintenant dire quelques mots à propos d'Israël, justement. Les Britanniques avaient promis qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, ils favoriseraient la création d'un État juif. En 1945, ils allaient s'asseoir sur cette promesse. Ils ne souhaitaient pas quitter la Palestine et portèrent leur présence militaire à 100 000 hommes. Cela contrariait le projet des organisations sionistes de créer un État juif. Aussi décidèrent-elles de l'imposer par la force à l'impérialisme britannique et aux masses arabes. Si les États-Unis et l'URSS soutenaient la création d'Israël, c'est qu'elle affaiblissait la Grande-Bretagne. Mais ce qui permit avant tout la création d'Israël, ce furent les centaines de milliers de Juifs rescapés des camps de la mort. Ne sachant où aller, et après avoir traversé tant d'horreurs, ils voyaient dans la création de cet État un pays qui leur apportait enfin la sécurité. Mais c'est bien le capitalisme pourrissant qui avait engendré le nazisme et qui portait la responsabilité du génocide. Mais ce furent avant tout les peuples arabes qui firent les frais de cette politique. Quant au peuple israélien, faute d'avoir cherché des alliés parmi les opprimés des pays arabes, il est devenu à la fois leur geôlier et le jouet des grandes puissances. En 1947, l'ONU adoptait un plan soutenu par les États-Unis et l'URSS, qui partageait la Palestine en deux États, un État juif, un État palestinien. Il faisait la part belle à Israël. Les représentants palestiniens et les dirigeants des États arabes refusèrent ce partage. La Ligue des États arabes, qui venait juste de se constituer, annonça qu'ils entreraient en guerre contre le futur État d'Israël. En avril 1948, le massacre des villageois de Deir Yassin embrasa toute la région. En chassant les Palestiniens de leurs terres, en s'imposant par la force des armes, Israël avait creusé un fossé de haine entre le peuple juif et les peuples arabes. Les dirigeants arabes étaient opposés à la création d'un État concurrent, Israël. Mais ce n'est pas parce qu'ils étaient émus par le sort des Palestiniens, non. Ils s'en moquaient éperdument. Les dirigeants égyptiens et irakiens se saisirent de l'occasion, donc, de cette guerre pour décréter la loi martiale. Ils détournaient le mécontentement social en l'orientant dans une guerre contre Israël. Et les masses arabes se retrouvaient entraînées dans une guerre qui étouffait et masquaient leurs propres intérêts, leurs propres combats de classe. Les partis communistes arabes, au nom de leur loyauté envers Moscou, soutinrent le plan de partage qui défavorisait les Palestiniens. Les classes populaires, qui avaient mis leurs espoirs dans les partis communistes, se sentirent trahis et s'en détournèrent. Dans le même temps, les militants communistes continuaient de subir la répression. Fahd, le dirigeant du parti communiste irakien, fut pendu en public. Israël sortit vainqueur du conflit et repoussa ses frontières bien au-delà du plan de partage de l'ONU. Les Israéliens occupaient désormais 70% de la Palestine. Et ce succès aurait été impossible sans les importantes livraisons d'armes russes et surtout sans l'accord secret conclu avec Abdallah, le roi de Jordanie, qui avait promis en échange d'une partie de la Palestine de rester en dehors du conflit. La Jordanie agrandit son territoire, mais l'Égypte en profita aussi pour prendre le contrôle sur la bande de Gaza. La Palestine fut donc dépecée, certes par Israël, mais aussi par la Jordanie et l'Égypte. Entre 700 000 et 800 000 Palestiniens furent expulsés de leurs terres. L'ensemble des peuples arabes vécut cela comme une injustice et une humiliation de plus. La guerre entre Israël et les pays arabes avait donc enrayé la révolte ouvrière et anti-impérialiste. Avec la défaite, les régimes arabes s'étaient complètement discrédités. Aussi, la contestation repartit de plus belle, précipitant leur chute. En Égypte, le canal de Suez symbolisait à la fois l'occupation du pays par l'armée britannique et le pillage de ses ressources. Des organisations anti-britanniques de guérilla, où étaient représentées toutes les tendances politiques des frères musulmans aux communistes, prirent pour cible l'occupation britannique du canal de Suez. Dans le même temps, des jacqueries paysannes éclataient dans les grands domaines de l'aristocratie. Voici le témoignage de l'écrivain Roger Vaillant sur ce qui se passait dans les campagnes à l'époque. Je cite. Les villageois travaillaient sur 1500 hectares appartenant à un seul propriétaire qui habite l'hiver au Caire, l'été à Alexandrie et 6 mois par an en Europe. Les jardiniers du plus fertile jardin du monde ont perpétuellement le ventre creux. Les fournisseurs en coton du monde occidental sont des loqueteux. Les jardins de la vallée du Nil enrichissent de par le monde un grand nombre d'hommes, les propriétaires fonciers égyptiens, les marchands qui vendent le coton brut, les financiers qui édifient des filatures et des usines de tissage, et les spéculateurs qui font monter et descendre le prix du coton. Et la Grande-Bretagne parvient par des moyens tortueux à prélever sa dîme sur tous les produits de la vallée. Le 25 janvier 1952, c'était déjà un 25 janvier, ce fut aux pauvres des villes de se soulever à la fois contre l'occupation anglaise et contre les riches. Les quartiers déshérités du Caire suivaient avec attention l'agitation qui régnait dans la région du canal. La nouvelle du massacre des Boulouk Nizam, troupes de police auxiliaires et égyptiennes qui s'étaient solidarisées avec le mouvement populaire anti-britannique, provoqua au Caire une manifestation d'1 million d'ouvriers, d'étudiants et de fonctionnaires, y compris de policiers, de soldats et de sous-officiers. Le roi décréta la loi martiale. Les classes possédantes se sentaient menacées par cette contestation qui les visait, eux, autant que la monarchie et les Britanniques. En effet, la corruption était généralisée. Ceux qui avaient de l'argent pouvaient s'offrir un portefeuille de ministre ou un titre de pacha. Et les frasques du roi Farouk, qui traînaient dans tous les casinos d'Europe, exaspéraient les Égyptiens. Ce roi, qui touchait un pourcentage sur toutes les affaires traitées en Égypte, cristallisait toutes les haines. Les arrestations arbitraires, la torture pratiquée à grande échelle par la police politique, ne suffisaient plus à étouffer le mécontentement populaire. L'Égypte était grosse d'une révolution, où la question de la terre et la question nationale se mêlaient aux revendications sociales. Mais le Parti communiste, qui avait retrouvé un certain crédit auprès de la classe ouvrière, ne sut pas et ne voulut pas proposer des perspectives à la classe ouvrière. Il laissa le champ libre à d'autres forces politiques qui sauvèrent la domination de la bourgeoisie. Le salut des classes possédantes vint de l'armée. Le 23 juillet 1952, les officiers libres regroupés autour de Nasser ont pris le pouvoir par un coup d'État. Ils l'ont remis aussitôt au général Naguib, connu pour son hostilité au roi. À la radio du Caire, Naguib annonça que l'armée avait changé de maître et il ajoutait que tout acte de violence, entendez par là toute intervention des masses, serait réprimé avec la plus extrême rigueur. Le coup d'État fut accueilli avec un soulagement par la population. Mais les premiers gestes des officiers visaient à rassurer les classes possédantes, les impérialistes, et à doucher les illusions qui pouvaient exister dans les classes populaires. Par contre, le roi Farouk, lui, put embarquer tranquillement sur son yacht et quitter le pays. Ces officiers, qui apparaissaient comme rebelles, constituaient une équipe de rechange pour la bourgeoisie égyptienne. Ils voulaient moderniser l'armée, pratiquer une réforme agraire modérée qui saperait le pouvoir des féodaux, responsables selon eux de la paralysie des campagnes. Ils souhaitaient industrialiser leur pays et s'opposèrent à tout ce qui entravait la production, en premier lieu les grèves ouvrières. En août 1952, près d'Alexandrie, l'armée tirait sur les ouvriers de la filature Misreux qui occupait l'usine. La fusillade fit 8 morts et fut suivie de 800 arrestations. Et le lendemain, les 2 dirigeants de la grève furent pendus. Ajoutons que s'il était intraitable avec les ouvriers, le régime tenta de s'entendre avec l'impérialisme en facilitant la pénétration des capitaux étrangers. En 1954, Nasser évinça Naguib et concentra tous les pouvoirs entre ses mains. En bon nationaliste, il sut jouer de la rivalité qui opposait le bloc soviétique au bloc américain. Lorsque les puissances occidentales refusaient de lui livrer du matériel militaire, Nasser se tourna vers la Tchécoslovaquie et l'URSS. En août, en 1955, il participa à la conférence de Bandung, où se réunirent la Chine, l'Inde et l'Indonésie, de grands pays devenus indépendants, qui prétendaient, dans le contexte de la guerre froide, se démarquer à la fois du bloc soviétique et du bloc de l'Ouest. Du coup, les États-Unis refusèrent de débloquer les 200 millions de dollars promis pour la construction du haut barrage d'Assouan. Face à ce refus, le 26 juillet 1956, Nasser annonçait au cours d'un meeting à Alexandrie, sous les ovations de la population, qu'il nationalisait le canal de Suez. Cette déclaration fut ressentie comme un camouflet par la Grande-Bretagne et la France. Mais pour les populations arabes, et pour les Égyptiens en particulier, c'était une revanche sur près d'un siècle de colonisation dont le canal était le symbole. C'était la réponse d'un pays du tiers-monde au mépris que les grandes puissances lui manifestaient. C'était un défi à l'impérialisme. Et cette mesure devait asseoir la popularité de Nasser, non seulement en Égypte, mais dans tout le monde arabe.